Quand nous arrivons à la bibliothèque Komura, il est presque 1 heure de l'après-midi. Sada me dépose devant le portail, mais ne fait pas mine de descendre. Il a laissé tourner le moteur et veut reprendre aussitôt la direction de Kochi. « Merci, » dis-je. « À un de ces jours. » Il passe la main à travers la vitre, me fait un petit signe d'adieu, puis repart dans un crissement de pneus. Il retourne vers ses grandes vagues, son monde, ses problèmes. Mon sac sur le dos, je franchis la porte de la bibliothèque. Je hume l'odeur de la pelouse fraîchement tondue, des bosquets fraîchement taillés. J'ai l'impression d'être parti depuis des mois. Pourtant, cela fait à peine 4 jours que j'ai quitté la bibliothèque. Oshima est assis derrière son comptoir. Il porte une cravate, chose rare chez lui. Une cravate à rayures jaunes, moutardes et vertes, sur une chemise blanche boutonnée sous le menton. Ses manches sont roulées jusqu'au coude et il a tombé la veste. Devant lui sont posées une tasse de café et, comme d'habitude, 2 longs crayons bien taillés. « Salut !» dit-il. Il me sourit comme toujours. « Bonjour. C'est mon frère qui t'a ramené jusqu'ici ?»«
Oui. »
« Il n'est pas très bavard. » »«
Mais on a quand même parlé un peu. » »«
Tant mieux. Tu as de la chance. Cela dépend des lieux et des gens. Mais il lui arrive de ne pas décrocher un mot. »
« Il s'est passé quelque chose ici. Votre frère m'a dit que je devais rentrer à cause d'une affaire urgente. »
Oshima hoche la tête. « Oui, j'ai plusieurs nouvelles à t'annoncer. Tout d'abord, mademoiselle Saeki est morte. Une crise cardiaque. Je l'ai retrouvée effondrée sur son bureau mardi après-midi. C'est arrivé brutalement. Elle n'a pas souffert apparemment. »
Je pose mon sac par terre, puis je m'assieds sur la chaise la plus proche. Mardi après-midi? On est vendredi aujourd'hui, c'est bien ça?
Oui. Elle est morte juste après la visite guidée. J'aurais dû te prévenir plus tôt, mais j'ai eu du mal à rassembler mes esprits.
Enfoncé dans ma chaise, je n'arrive plus à faire le moindre geste. Oshima et moi restons assis sans rien dire un long moment. De l'endroit où je suis, je vois l'escalier qui mène au premier étage, la rampe noire bien astiquée, le vitrail du palier. Cet escalier avait une signification profonde pour moi. Gravir ces marches signifiait que j'allais voir mademoiselle Saeki. Maintenant, c'est devenu un escalier ordinaire qui n'a plus le moindre intérêt pour moi. Elle n'est plus là.
Je te l'avais dit, je savais qu'elle allait mourir. Et elle le savait aussi. Évidemment, maintenant que c'est arrivé, c'est très douloureux.
Il fait une pause. Il me semble que je devrais dire quelque chose à mon tour, mais je ne trouve pas les mots.
Il n'y aura pas d'obsèques, poursuit Oshima, conformément aux vœux de la défunte. Son corps a été incinéré. Il y avait un testament dans le tiroir de son bureau au premier étage. Elle lègue tous ses biens à la fondation qui gère la bibliothèque Komura. Elle m'a laissé son stylo Mont-Blanc en souvenir. Et à toi, elle laisse un tableau. Tu sais, le tableau du garçon au bord de la mer. Tu veux bien le prendre?
Je hoche la tête en silence.
Je l'ai préparé pour toi. Il est déjà emballé. Il t'attend.
Merci, dis-je, retrouvant enfin ma voix.
Dis, Kafka, reprend Oshima, en faisant comme toujours tourner un crayon entre ses doigts. Je peux te poser une question?
Je hoche la tête.
Tu savais déjà que mademoiselle Saeki était morte, n'est-ce pas?
Je hoche à nouveau la tête. Oui, je crois.
C'est bien ce qu'il me semblait, dit Oshima en poussant un gros soupir. Tu veux un verre d'eau? Quelque chose? À vrai dire, tu as l'air desséché, comme si tu revenais du désert.
Je veux bien de l'eau.
C'est vrai que je suis assoiffé. Je m'en rends compte maintenant qu'il me le dit.
Je vide d'un trait le verre d'eau qu'il m'apporte. Mes tempes battent un peu.
Je repose le verre sur la table. Tu en veux encore?
Je secoue la tête.
Qu'as-tu l'intention de faire à présent?
Demande Oshima. Retourner à Tokyo?
Que feras-tu là-bas?
J'irai voir la police pour commencer et je leur expliquerai ce qui s'est passé. Sinon, je serai obligé de passer le reste de ma vie en cavale. Et puis, peut-être que je vais retourner à l'école. Je n'en ai pas vraiment envie, mais il faut au moins que je finisse le collège. Si je prends mon mal en patience, dans quelques mois, j'obtiendrai mon diplôme de fin d'études. Et ensuite, je pourrai faire ce que je veux. « Je vois, » dit Oshima. Il plisse les paupières et scrute mes traits. « C'est peut-être ce que tu as de mieux à faire, en effet. » J'en suis de plus en plus convaincu. « Passer sa vie à fuir ne mène qu'à des impasses. »«
Sans doute, » dis-je.
« Tu as mûri, on dirait. »
Je secoue la tête. Je suis incapable de parler.
Oshima presse doucement la gomme de son crayon contre sa tempe. Le téléphone sonne, mais il ne répond pas. « Nous perdons tous sans cesse des choses qui nous sont précieuses, » déclare-t-il quand la sonnerie a enfin cessé de retentir. « Des occasions précieuses, des possibilités, des sentiments qu'on ne pourra pas retrouver. C'est cela aussi, vivre. Mais à l'intérieur de notre esprit, je crois que c'est à l'intérieur de notre esprit, il y a une petite pièce dans laquelle nous stockons le souvenir de toutes ces occasions perdues. Une pièce avec des rayonnages, comme dans cette bibliothèque, j'imagine. Et il faut que nous fabriquions un index, avec des cartes de référence, pour connaître précisément ce qu'il y a dans nos cœurs. Il faut aussi balayer cette pièce, l'aérer, changer l'eau des fleurs. En d'autres termes, tu devras vivre dans ta propre bibliothèque.
Je regarde le crayon qu'il tient entre ses doigts. Et le regarder me rend profondément triste. Mais dans peu de temps, je devrais redevenir le garçon de 15 ans le plus endurci au monde. Ou du moins faire semblant. J'inspire profondément, emplis d'air mes poumons et refoule au fond de moi le bloc d'émotion qui m'envahit. Est-ce que je pourrais revenir ici plus tard ?
Bien sûr, dit Oshima. Il repose son crayon sur le comptoir, croise les mains derrière sa nuque et me regarde bien en face.
« Apparemment, » dit-il, « je vais devoir m'occuper seul de cette bibliothèque pendant un moment. J'aurai sans doute besoin d'un assistant. Quand tu auras réglé tes problèmes avec la police et terminé tes études, si tu en as toujours envie, tu pourras revenir ici. Cette ville et moi n'allons pas bouger avant un certain temps. « Tout le monde a besoin d'un port d'attache, plus ou moins. »«
Merci, » dis-je.
« Je t'en prie. »«
Votre frère m'a dit qu'il m'apprendrait le surf. »«
Tu as de la chance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui plaisent à mon frère. Il n'a pas un caractère facile, tu sais. »
Je hoche la tête et souris. Ils se ressemblent, ces frères.
« Dis, Kafka, »
fait Oshima en me fixant d'un regard intense.
« Je me trompe peut-être ?» Mais il me semble que c'est la première fois que je te vois sourire.
Peut-être, dis-je. J'ai souri. C'est vrai. Du coup, je me mets à rougir.
Quand rentres-tu à Tokyo?
Tout de suite.
Tu ne veux pas attendre ce soir? Je pourrais te déposer à la gare après avoir fermé la bibliothèque.
Je réfléchis un peu puis secoue la tête. Merci, mais... il me semble que je ferais mieux de m'en aller tout de suite.
Oshima acquiesce d'un signe. Il va chercher dans la chambre du fond le tableau qu'il a soigneusement emballé pour moi. Il ajoute dans le sac en plastique contenant le paquet un exemplaire du 45 tours de Kafka sur le rivage.
Ça, c'est un cadeau de ma part.
Merci. J'aurais aimé voir une dernière fois le bureau de Mademoiselle Saeki, si cela ne vous dérange pas.
Bien sûr que non. Prends ton temps.
Vous voulez bien venir avec moi ?
D'accord.
Nous montons au premier étage, pénétrons dans la pièce.
Debout devant la table de travail, j'en effleure doucement la surface, en pensant à toutes les choses qui ont été absorbées avec le temps. J'imagine Mademoiselle Saeki telle qu'Oshima l'a trouvée, la tête posée sur ce bureau. Puis je la revois, tournant le dos à la fenêtre, en train d'écrire avec zèle, derrière ce même bureau, quand je lui montais son café. La porte était toujours entrouverte. À mon entrée, elle levait la tête et me souriait. Qu'est-ce qu'elle écrivait dans ce bureau ?
Je ne sais pas, répond Oshima. Tout ce que je peux dire,
c'est qu'elle a quitté ce monde en emportant beaucoup de secrets. » J'ajoute intérieurement, et en laissant beaucoup d'hypothèses non vérifiées. La fenêtre est ouverte et la brise de juin agite doucement l'ourlet des rideaux de dentelle. Une légère odeur de marée flotte dans l'air. Je sens le sable du rivage entre mes doigts. Je m'éloigne de la table, m'approche d'Oshima et le serre fort contre moi. Le contact de son corps mince éveille déjà en moi une terrible nostalgie. Il me caresse doucement les cheveux. « Le monde est une métaphore, Kafka Tamura, » dit-il à mon oreille. « Mais pour toi et moi, seule cette bibliothèque n'est pas une métaphore. Aussi loin qu'on aille, elle reste tout simplement cette bibliothèque. « Naturellement, » dis-je. « C'est une bibliothèque unique, spéciale et très solide. Rien d'autre ne peut prendre sa place. » Je hoche la tête. « Au revoir, Kafka Tamura. » « Au revoir, Oshima-san. Vous avez une belle cravate, vous savez. » Il s'écarte de moi, me regarde bien en face en souriant. « Je me demandais si tu allais m'en faire la remarque. » Je remets mon sac sur mon dos, marche jusqu'à la gare et prends un train pour Takamatsu. Là, j'achète un aller pour Tokyo. J'arriverai tard dans la nuit. Je m'arrangerai pour trouver un endroit où dormir et demain matin, je retournerai à Nogata. Ensuite, je serai à nouveau seul dans cette grande maison vide. Personne ne m'attend. Mais je n'ai pas d'autre endroit où aller. Depuis une cabine de la gare, je compose le numéro du portable de Sakura. Elle est sur son lieu de travail, me dit-elle, mais on peut parler un peu si cela ne dure pas trop longtemps. Je vais rentrer à Tokyo, dis-je. Je t'appelle de la gare de Takamatsu pour te le dire. Ta fugue s'arrête là. Je crois, oui. C'est vrai que 15 ans, c'est un peu tôt pour quitter sa maison. Et que feras-tu une fois à Tokyo? Je vais sans doute retourner à l'école. Si on raisonne sur le long terme, ce n'est pas une mauvaise idée, dit-elle. Toi aussi, tu vas retourner à Tokyo, non? Oui, en septembre. J'aimerais bien voyager cet été. On pourra se voir à Tokyo. D'accord. Oui, bien sûr. Tu me donnes ton numéro de téléphone? Je lui donne le numéro de la maison. Tu sais, j'ai rêvé de toi l'autre nuit, dit-elle. Moi aussi, j'ai rêvé de toi. Un rêve un peu chaud, j'imagine. Peut-être, admets-je. Mais ce n'était qu'un rêve. Et le tien? Oh, moi ça n'avait rien d'un rêve érotique. Je te voyais marcher en rond tout seul dans une grande maison pareille à un labyrinthe. Tu cherchais une pièce en particulier, mais tu n'arrivais pas à la trouver. Il y avait aussi quelqu'un dans cette maison qui te cherchait. « Toi, je criais pour te dire de faire attention, mais ma voix ne portait pas jusqu'à toi. Un vrai cauchemar. Je hurlais si fort dans mon rêve que je me suis éveillée épuisée. Et j'étais très inquiète pour toi. »«
Merci, dis-je. Mais ça aussi, ce n'était qu'un rêve. »«
Il ne t'est rien arrivé de mal ?»«
Rien du tout. »
Et je me répète intérieurement, « Il ne t'est rien arrivé de mal. »
« Au revoir, Kafka. Je dois me remettre au travail. Mais si tu as envie de parler avec moi, n'hésite pas à me rappeler, hein ?»«
Au revoir, » dis-je. Et j'ajoute, « Grande sœur. »
Le train franchit le viaduc au-dessus de la mer et arrive à la gare d'Okayama. Là, je change et monte dans l'express à grande vitesse pour Tokyo. Je ferme les yeux et m'installe au fond de mon siège. J'accompagne le balancement du wagon. J'ai posé à mes pieds Kafka au bord de la mer, dans son emballage, bien ficelé. Je sens son contact entre mes jambes pendant tout le trajet.
« Je voudrais que toi, tu te souviennes de moi, » dit Mademoiselle Saeki, et elle me regarde dans les yeux. « Si tu te souviens de moi, cela m'est égal que tous les autres m'oublient. »
Le temps pèse sur toi comme un vieux rêve au sens multiple. Tu continues à avancer pour traverser ce temps. Mais tu auras beau aller jusqu'au bord du monde, tu ne lui échapperas pas. Pourtant, même ainsi, il te faudra aller jusqu'au bord du monde. parce qu'il est parfois impossible de faire autrement.
Une fois passé Nagoya, il se met à pleuvoir. Je regarde les lignes que les gouttes de pluie forment sur les vitres sombres. Quand j'ai quitté Tokyo, il pleuvait aussi, je crois. Je repense à tous les endroits que j'ai vus sous la pluie. La pluie dans la forêt, la pluie sur la mer, sur l'autoroute, sur la bibliothèque, sur le bord du monde. Je ferme les yeux et me laisse complètement aller. Je relâche mes muscles crispés. J'écoute le grondement régulier du train. Alors, sans que rien ne l'ait laissé prévoir, je me mets à pleurer. Je sens les larmes tièdes couler le long de mes joues. Elles débordent de mes yeux, roulent jusqu'à ma bouche, s'y arrêtent, puis sèchent sans hâte. Cela m'est égal. Je n'ai pas l'impression que ce sont mes larmes. Il me semble qu'elles font partie de la pluie qui frappe les vitres. Ai-je agi comme il le fallait ?
Tu as agi comme il le fallait, dit le garçon nommé Corbeau. Tu as fait ce qui était juste. Personne n'aurait pu agir aussi bien que toi. Tu es le garçon de 15 ans le plus courageux du monde réel, tu sais.
Mais je ne sais toujours pas ce que cela signifie, vivre, dis-je.
Regarde le tableau, déclare-t-il, et écoute le vent.
Je hoche la tête.
Tu en es capable.
Je hoche à nouveau la tête.
Tu devrais dormir un peu, dit le garçon nommé Corbeau. Quand tu te réveilleras, tu feras partie d'un monde nouveau. Tu t'endors sans tarder. Et quand tu t'es réveillé, tu faisais partie d'un monde nouveau.